Oui, bonjour. Je suis David Rosset, le pasteur de cette communauté. Je ne sais pas si ça va vous rassurer, mais je vais dire beaucoup plus que deux, trois mots parce que je vais enchaîner avec la prédication. Mais pour moi, souvent on me pose la question de savoir. J'ai beaucoup de potes qui sont non chrétiens, puis qui se demandent comment j'ai atterri en tant que pasteur dans une communauté. Et puis je leur dis souvent, mais pour moi, pasteur, c'est être au cœur de la vie. Oui, les enfants, vous pouvez descendre au Kids pour Jésus. On vous bénit, ils passent un bon temps avec vos monitrices, vos moniteurs. Je disais que j'essaye de répondre à cette question, qu'est-ce que c'est être pasteur? Puis souvent je dis, être pasteur, finalement, c'est être au cœur de la vie, et au cœur des situations de vie. Et puis, particulièrement quand c'est des situations de vie qui sont plus compliquées, on se rend compte qu'il y a un degré de confiance et de relations qui s'installent. Et puis pour moi, là, d'être partie d'une équipe, de faire partie d'une équipe, parce que de toute manière, ces deux modes-là et ces situations-là, je les rencontre, et de faire partie de cette équipe, c'est vraiment un grand sujet de reconnaissance, parce que tout seul, on a de la peine à s'en sortir, on a la relation avec Dieu, on peut prier ensemble, et puis aussi on peut partager les uns les autres ce qu'on a sur le cœur, et puis éventuellement quelques solutions qui peuvent se dessiner en équipe. Donc pour moi, c'est un peu ça, mon cœur, par ma fonction, puis mon cœur, je suis au service des autres, au service des personnes qui en ont besoin, au cœur de cette vie qui peut être parfois compliquée, parfois gaie, ça dépend des moments, mais que lorsqu'elle est compliquée, on puisse être en équipe pour affronter ces situations et effectivement ne pas les fuir. Parce que la tentation numéro un, c'est de les fuir, mais là, on a les outils finalement pour les affronter et les vivre ensemble. Alors voilà ce qui est mon cœur pour ce service. Et puis aussi un grand sujet de reconnaissance, parce que ce matin, pour préparer ce culte, on était une petite dizaine de personnes, puis on se dit, dans cette communauté, il y a plusieurs personnes qui ont ce cœur-là, et plusieurs personnes qui en bénéficient. Ce n'est pas forcément des témoignages dont on entend souvent parler, mais plusieurs personnes viennent vers moi, puis qui ont pu me dire, mais là, à ce moment-là de ma vie, j'ai allé rencontrer tel et tel, tel et tel, et ça m'a aidé à faire des pas en avant, à passer des caps, et à être soutenu et écouté. Donc on a un privilège extraordinaire, c'est vraiment un don de Dieu. Et puis, voilà, qu'on puisse le vivre le maximum tous ensemble, c'est aussi ma prière ce matin. Pour enchaîner, je vous invite à regarder cette vidéo et qui va servir de base à ma prédication. Merci. C'est magnifique, puis bravo. C'est la sœur de Marie-Ray, donc bravo, tu lui transmettras des félicitations et ses parents qui ont fait cette vidéo. Donc c'est vraiment une manière originale de se raconter à nouveau et d'écouter cette parabole. J'avais une question à vous poser. Il y a qui n'a jamais entendu parler de cette parabole? Une personne. C'est pas beaucoup, hein? C'est pas beaucoup, puis c'est assez logique. Et puis c'est ça que toujours, effectivement, un peu compliqué quand on a des paraboles qui sont si profondes, mais très connues en même temps. Alors mon défi ce matin, c'est d'essayer de soulever quelques points, soulever quelques pensées qui peuvent nous aider tout à nouveau à rentrer dans cette parabole et la faire nôtre finalement, pas la faire comme une histoire connue, mais la faire nôtre et l'intégrer dans nos vies, savoir ce qu'elle a à nous dire dans nos vies. Parce que pour moi, ces deux parcours de vie, celui du fils prodigue, qu'on appelle comme ça, celui qui est parti, et celui du fils aîné, celui qui reste vers ses parents, ces deux parcours de vie dans lesquels on se retrouve. C'est vraiment ce qui donne la force de cette histoire. C'est dans cela qu'elle dégage une force hors du commun, parce qu'elle nous parle de la vie avec un petit V et de la vie avec un grand V, puisque ces deux fils sont en relation avec leur père, qui n'est autre que Dieu. Fils aîné, fils qui part, et le père. On se retrouve dans ces trois. C'est des parcours qui, d'après moi, plutôt que de se reconnaître soit dans l'un, soit dans l'autre, c'est plutôt des parcours qui se mélangent. On a tous en nous une part de fils ou de fille qui veut partir, aller au loin. On a tous en nous une part de fils aîné qui a besoin peut-être de sécurité, qui préfère rester dans des environnements connus. Et puis on a tous en nous, surtout, ce besoin de Dieu, ce besoin de Père qui est là, à nos côtés et au cœur de nos vies. Et ce besoin, il met vraiment en lumière cette capacité que nous avons toutes et tous à nous perdre. Parce que finalement, si on y réfléchit bien, il n'y a pas que le fils prodigue qui se perd. Le fils aîné, au vu de sa réaction, il a l'air aussi complètement perdu. Il se fâche alors qu'il devrait se réjouir. Il se fâche alors qu'il est dans la communion du Père. On insiste souvent sur le fils prodigue, sur ce caractère perdu, mais est-ce que ce fils aîné, dans ses sentiments, dans son être intérieur, est-ce qu'il n'est pas aussi un peu perdu? Ces deux fils, pour moi, autant l'un que l'autre, ont l'air perdu, et c'est peut-être dans ces sentiments un peu de perte qu'on peut se retrouver. Si on prend le fils prodigue, il se rend compte que cette vie à la maison le laisse sur sa faim, au sens figuré en tout cas. Il le laisse sur sa faim, il aspire à des choses plus grandes. Cette vie ne lui remplit plus ses aspirations. Il a envie d'autre chose, découvrir autre chose, quitter la maison du Père pour aller découvrir le monde, avoir plus de sensations finalement. La solution, c'est de tout quitter, de prendre quand même ce qui lui revient, et puis de partir à la découverte. Partir à la découverte, on peut le traduire aussi comme une espèce de fuite en avant. Il veut voir autre chose, avoir de nouvelles sensations. Et cette découverte, on se rend compte dans la vie, dans nos vies, que soit elle est concluante, ou au contraire, elle peut tout à coup s'avérer douloureuse ou compliquée. Ça dépend, on ne sait pas. Toujours est-il que pour ce fils, cette vie-là le laisse encore et toujours sur sa faim. Et cette fois-ci, c'est plus seulement au figuré, c'est aussi au propre. Il a faim. Il doit nourrir. Il espère se nourrir de la nourriture qu'il donne à ses cochons. Il tombe bien bas, très bas. Et si on y est attentif à la lecture de ce récit, que l'on connaît bien, ce qu'il a laissé sur sa faim, ce n'est pas en premier lieu le manque de ressources ou le fait qu'il n'avait plus rien dans les poches, mais la qualité des relations qu'il a créées durant son périple. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'était bien mis en évidence dans cette petite vidéo. La qualité de ces relations, elles étaient de mauvaise qualité, ces relations. Elles étaient déficientes parce qu'il était en relation avec les autres pour une seule et bonne raison, c'est qu'il avait beaucoup d'argent puis qu'il pouvait ainsi finalement acheter d'une certaine façon l'affection de celles et ceux qui étaient autour de lui. Toutes ces relations étaient faussées par l'argent et un besoin presque illimité de reconnaissance, de contact, de fraternité qu'il avait et qu'il pensait trouver grâce à ses capacités financières. Il tombe bien bas, et le fait de tomber bien bas et de se rendre compte que finalement tout était faussé dans les relations qu'il a essayé de créer, c'est ça qui le pousse à revenir vers la maison du Père. Et là, il prend un pari. Parce qu'il n'est absolument pas certain, nous on connaît la fin de l'histoire, mais si on se met dans sa peau, il n'est absolument pas certain de comment il va être accueilli à nouveau dans la maison du Père. On l'apprend, nous on le sait, on le connaît, mais lui il ne le sait pas. Il prend un risque, il se lève, il prend le chemin du retour, ce qui lui demande un certain courage. Ce n'est pas une décision qu'on prend comme ça, en claquant des doigts. Ça lui demande un certain courage de se mettre en avant, comme l'a dit Eric, de se lever et de marcher. Et puis là, on a cette rencontre extraordinaire du Père qui l'accueille à bras ouverts. Être accueilli à bras ouverts, ça vient certainement de cette histoire, l'expression. Et puis ce fils, il peut tout à nouveau être enveloppé, non seulement par les bras de son père, mais tout à nouveau être enveloppé, lui qui arrive en haillons, de ce manteau royal. En revenant à la maison, il est enveloppé d'amour et il retrouve une dignité que personne d'autre n'aurait pu lui donner. Et puis c'est là qu'il y a une clé pour nous en tant que chrétiens, c'est que ce besoin qui nous pousse parfois à nous perdre, ce besoin de reconnaissance, ce besoin d'amour, une chanson célèbre qui dit toujours « on a tous besoin d'amour hein », on peut aller le chercher très très loin, on peut aller le chercher très près, il nous faut le ressentir de manière particulière auprès du Père, qui est Dieu. Être enveloppé tout à nouveau de ce manteau royal. Ce manteau royal, si on s'intéresse maintenant au fils aîné, il vit quelque chose de tragique, je trouve. Parce qu'il est enveloppé du manteau royal, il est en communion, il n'est justement pas en communion, il est dans la même maison que son père, il est enveloppé du manteau royal et il ne s'en rend plus compte. Être enveloppé du manteau royal et ne plus s'en rendre compte. Il y a vraiment quelque chose de tragique. Et ça nous dit qu'effectivement, on peut être dans la maison du Père, à ses côtés, et en même temps être complètement perdu. On ne se rend plus compte que le Père est à nos côtés. Ce fils aîné, il ne discerne plus les signes de la grâce dans sa vie, et pire, il en vient à jalouser les signes plus visibles de la grâce lorsque son frère revient à la maison. Imaginez le degré de perte, perte de repère, perte de sens. Il en vient à jalouser les signes de la grâce de son frère, parce qu'il n'est plus capable de reconnaître les signes de la grâce de sa vie. Non seulement il ne voit plus ce qui lui était accordé, mais il se révolte et il se fâche que ces signes puissent être accordés à quelqu'un d'autre, et en plus c'est à son frère, quelqu'un de proche de lui. Quelle parabole, je trouve. Comme elle nous parle au plus profond de nous. Comme elle nous rejoint au plus profond de nos réalités de vie, de nos réalités de foi, où ces sentiments peuvent aussi, parfois, il nous faut bien nous en rendre compte, monter en nous. Il ne faut pas avoir peur de ces crises. Le fils aîné vit une crise assez conséquente, là. Et pourtant, c'est une crise qui va s'avérer salutaire, dans le sens qu'elle va lui apporter le salut, une réponse à ce besoin, une réponse à cette perte. Pourquoi ? Parce que le Père, tout à nouveau, il lui ouvre les yeux. En lui disant quoi ? Mais mon fils, tout, et quelle promesse, hein, tout ce qui est à moi est à toi. Je ne garde pas une partie pour moi, puis je donne une partie à ton frère. Il y a une forme de totalité et de générosité qui dépasse largement ces petits calculs, t'as donné ci à mon frère, puis pas ça à moi. Tout ce qui est à moi est à toi. Et à ce moment-là, il peut réaliser, c'est ce que j'espère, en tout cas le texte n'est pas très clair à ce niveau-là, il peut réaliser tout à nouveau qu'il est aussi, lui, enveloppé de ce manteau royal. Que lui aussi, il est dans cette communion et enveloppé de cet amour incroyable du Père. Ce Père, finalement, qui est au centre de cette parabole, vers qui tous les regards convergent, c'est un Père qui d'abord voit son Fils partir. Et ce Père, c'est un Père qui laisse son Fils partir. C'est tous des éléments évidents, hein, de cette histoire. Mais ce Père, il ne retient pas son Fils. Qui plus est, il accède à sa demande de lui donner en avance une part d'héritage. Et puis, notre texte ne nous le dit pas, mais on peut s'imaginer, comme le montre aussi cette petite vidéo, c'est un Père qui doit, puis c'est presque impossible autrement, je le comprends encore mieux depuis que je suis Père, se fatiguer les yeux à essayer de discerner la silhouette de son Fils à l'horizon, sur le chemin de la maison. C'est quasiment sûr qu'il l'attend tous les jours et fidèlement. Et si on imagine que ce Père, c'est Dieu, ça nous en dit beaucoup sur le caractère de Dieu. Ce caractère de Dieu qui laisse la totale liberté à son Fils de partir, qui nous laisse parfois partir, qui nous voit partir et qui pourtant nous attend. Et qui finalement ouvre ses mains, ouvre son cœur, ouvre sa maison pour accueillir tout à nouveau celui qui revient. Ce même Père, c'est aussi ce Père qui reste aux côtés de son Fils aîné, si bien que celui-ci ne s'en rend même plus compte. Et là, de nouveau, si on pense que ce Père, c'est Dieu, il y a une discrétion de Dieu qui est absolument phénoménale, voire troublante. Parce qu'on a parlé du Fils aîné qui ne se rend plus compte des signes de la grâce, mais le Père, il n'a pas disparu. Il était toujours à côté de lui et il ne s'en rend pas compte. Moi, ça m'a frappé en relisant ce texte puis en le méditant pour nous ce matin, de se dire, mais souvent on se pose la question, mais Dieu, il est où? Puis dans cette parabole, le fils aîné, il a aussi dû se poser cette question, bien peut-être même qu'il ne se la posait plus, cette question. Il y a un côté très troublant, parce qu'on s'attache souvent à la conclusion où, effectivement, puis qui est belle, magnifique, où ce fils prodigue, celui qui est parti revient, puis on voit l'action de Dieu de manière décisive. Mais le père, il était toujours dans la maison, toujours aux côtés du fils aîné, et pourtant ce fils aîné ne se rend plus compte. Et Dieu ne fait rien à contre. Ou le père ne fait rien à contre. Je nous laisse avec cette discrétion phénoménale de Dieu qui n'est pas sans nous poser des questions, qui n'est pas sans nous interpeller sur sa nature même, sur qui il est vraiment, en dehors de nos conceptions que nous pouvons peut-être avoir des fois sur Dieu. Dans ces mains ouvertes de Dieu, dans ces mains qui nous accueillent toujours à nouveau, on peut y voir beaucoup de choses, et des choses magnifiques. On peut y voir la sécurité, on peut y voir le repos, on peut y voir la guérison, la réconciliation, le pardon. Elle est riche, cette parabole, c'est pas pour rien qu'elle est hyper connue, parce qu'elle nous parle de Dieu peut-être comme jamais on a parlé de Dieu. Tous ces éléments-là de pardon, de réconciliation, de guérison, de sécurité, de repos, c'est ce que croit l'Église de manière assez fondamentale lorsqu'elle présente Jésus comme le Sauveur, c'est de se dire, mais ce Père, il est là encore et toujours, et c'est le seul, en ce sens-là, c'est le seul chemin, la seule vérité, la seule vie, qui peut nous faire bénéficier de cette sécurité, de ce repos, de cette guérison que ni les autres hommes, ni personne d'autre sur cette terre ne va pouvoir nous offrir. C'est ça que l'Église croit quand elle proclame que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. C'est ça et rien d'autre. Ce n'est pas pour être exclusif. C'est qu'il y a une foi profonde et complète dans le fait que ce Père, il n'y en a pas d'autre comme lui. Ses caractéristiques, on ne les retrouve pas ailleurs ou chez quelqu'un d'autre. Et en ce sens-là, on a un certain courage, on affirme des choses, mais c'est des choses qui sont fondamentalement vraies. Et on va pouvoir ouvrir un temps maintenant où on va faire descendre cette parabole dans nos cœurs tout à nouveau, descendre par rapport à ce qui nous a touchés, pouvoir donner notre réponse. Et puis je vais garder cette image des mains qui s'ouvrent et ses mains qui se reposent et qui étreignent ce fils qui revient à la maison. Et puis, j'aimerais vous nous laisser cette question de savoir quelles sont les mains qui se posent sur nos épaules. Vers qui est-ce que je me tourne lorsque j'ai besoin de retourner à la maison? Vers qui est-ce que je me tourne lorsque j'ai besoin de sécurité, de repos, de guérison? Quelles sont les mains qui se posent sur mon épaule? Des mains factices ou les mains du Père? Et puis, je me suis pas mal inspiré d'un livre de Henri Nouwen, que peut-être plusieurs d'entre vous connaissent. Et puis, il raconte à un moment donné son témoignage de vie où il a eu une carrière brillante, il a vraiment eu au niveau humain tout ce qu'on pouvait avoir de plus respectable et puis de plus enthousiasmant. Et puis, le constat qu'il fait à 50 ans, c'est que finalement, toutes ces réussites professionnelles, toutes ces réussites de vie, de carrière à un niveau humain qui était exceptionnel, il se rend compte que ce besoin de sens, ce besoin de vraies relations, il n'est toujours pas comblé. Il a recherché pendant plusieurs années du réconfort à la mauvaise place. De mauvaises mains se sont posées sur ses épaules parce qu'il y en avait, mais c'est des mains qui finalement étaient toujours un peu vides. Comme ce fils prodigue qui se rend compte qu'il a les mains vides. Jusqu'à ce qu'il retrouve le sens véritable de ces mains qui l'entourent, ou celle d'une communauté de l'Arche, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est des communautés que Giovanni a fondées, où c'est plusieurs personnes qui se forment en communauté. Toutes ces personnes ont une caractéristique, elles sont toutes, qu'on appelle nous, handicapées, que ce soit de la trisomie 21, des handicaps de différentes sortes. Et au milieu de ces communautés, des personnes évoluent et peuvent aider ceux qui en ont besoin. Mais mis vraiment en communauté, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas un qui apporte quelque chose à l'autre. Il y a vraiment un mouvement de va-et-vient entre ce qui est apporté et ce qui est reçu. Ce n'est pas soignant, soigné. Ou alors, ça va, c'est soignant, soigné dans les deux sens. Et là, au milieu, cet homme brillant, à la carrière extraordinaire, il a ressenti cette vraie présence du Père, de Dieu, à travers les mains de ces personnes handicapées qui l'ont entouré. Et ça a complètement changé sa vie. Alors pour nous, on peut tout à nouveau ce matin, en église et aussi en communauté, dans la confiance mutuelle des uns des autres, avec peut-être certaines personnes qui sont plus, entre guillemets, spécialistes, mais ce n'est pas une question de niveau hiérarchique, c'est une question de parcours de vie différent. On peut s'accueillir aussi, je crois, de cette même manière, déposer nos fardeaux de cette même manière, parce que tous ensemble, on partage cette foi dans le même Père. Et tous ensemble, on a été touchés de manière particulière par cet amour extraordinaire du Père. Et c'est ce que nous allons essayer de vivre, c'est ce retour au Père, que l'on soit dans une situation de vie où on est plus proche de ce fils prodigue qui est très loin, puis qui a besoin de revenir, puis de faire un grand pas, que l'on soit dans cette situation de fils aîné où on est peut-être dans la maison de Dieu depuis plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années, mais qu'on ne se rend même plus compte de la présence de Dieu, puis qu'on se demande, mais où est-il? Où sont les signes de sa grâce? Ou encore, plus simplement, parce que ce matin, on a besoin de renouveler notre image du Père, de savoir qui il est vraiment pour nos vies, de savoir qu'est-ce qu'il a vraiment fait pour nous. Besoin de renouveler l'image que l'on a de Dieu et redécouvrir les richesses de la maison du Père. Alors on va pouvoir prendre ce temps de méditation à travers aussi des chants de louanges. Et puis au milieu, je vais laisser le relais à Guy. Il y aura un moment où on va se placer, les équipiers de Baraka et l'équipe de Baraka, un peu sur l'avant de la salle. Et puis, où des personnes qui désirent faire ce pas pour demander une prière particulière, déposer quelque chose de particulier. On dit que c'est un culte pour les personnes fatiguées et chargées. Si vous êtes dans cette situation-là, venez simplement. Si vous êtes dans une situation où vous avez aussi besoin de renouveler votre image de Dieu, de redécouvrir quelles sont les richesses de sa grâce, vous pouvez aussi vous avancer ou alors rester sur votre place en toute intimité et profiter de ce moment particulier que nous a offert ce matin de redécouvrir tout à nouveau qui est Dieu. Finalement, si vous voulez simplement prier à votre place les uns pour les autres, c'est aussi un espace pour le faire, en toute simplicité et en tout respect les uns des autres. Alors qu'on puisse rentrer dans ce temps de louange, de présence de Dieu aussi particulière. Et ensuite, on aura ce moment particulier de prière tous ensemble. Amen.